Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes frères, en ce jour octave de Noël, la Sainte Église nous fait célébrer la circoncision de notre Seigneur. La circoncision était une petite opération douloureuse qui consistait à enlever une membrane de chair de l'organe de la génération des enfants mâles. C'est un rite qui remontait à Abraham. Je vous ai établi pour être le père d'une multitude de nations, avait dit Dieu à Abraham. Vous circoncirez votre chair afin que ce soit la marque de l'alliance que je fais avec vous. L'enfant mâle de 8 jours sera circoncis. Tout mâle dont la chair n'aura point été circoncise sera retranché du milieu de son peuple parce qu'il aura violé mon alliance. Ce n'est pas la première fois que Dieu faisait une alliance avec les hommes. Il avait fait une alliance avec Noé après le déluge, lui promettant et à ses descendants qu'il ne punirait plus les hommes de cette manière. Et il donna l'arc-en-ciel comme signe de cette alliance perpétuelle. Quand vous voyez un arc-en-ciel, il faut penser à cela, cette alliance entre Dieu et les hommes, qui a Dieu promettant de ne plus punir les hommes de cette manière. La circoncision, quant à elle, était le signe de l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham et à travers lui, avec tous ses descendants. Dieu avait promis à Abraham qu'il serait le père d'un peuple nombreux. Il faut faire attention ici à une erreur très courante aujourd'hui, même chez les hommes d'Église, hélas, et qui consiste à penser qu'Abraham est le père des 3 religions chrétiennes, judaïques actuelles et islamiques. Ainsi que le 15 novembre dernier, le pape François a reçu le grand imam d'Abu Dhabi en Arabie Saoudite pour mettre au point le projet de construction d'une maison de la famille abrahamique à Abu Dhabi, comprenant une synagogue, une mosquée et une église, reliées par des fondations uniques et placées au milieu d'un jardin magnifique censé représenter un nouveau paradis terrestre. Un 4e bâtiment sera construit, destiné à être un centre d'études pour faire connaître les 3 religions. Et c'est là qu'auront lieu les cérémonies de remise du prix de la fraternité humaine. C'est à Abu Dhabi l'an dernier, en effet, que le pape avait signé ce fameux document sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la vie commune, où il avait écrit que les diversités de religions sont une sage volonté de Dieu. Évidemment, nous sommes ici loin de la religion catholique, hélas. Non, Abraham est bien sûr le père selon la chair du peuple hébreu, mais selon la foi, Abraham n'est le père que de ceux qui croient en notre Seigneur Jésus-Christ. Comme notre Seigneur lui-même l'a dit, Abraham a tressailli de joie à la pensée de voir mon jour, et il l'a vu, et il s'est réjoui. Donc la circoncision était non seulement le signe de l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham et ses descendants, elle était aussi le signe de la foi d'Abraham et de son peuple dans les promesses messianiques. Saint Thomas d'Aquin dit que la circoncision était la profession de foi des anciens et ils entraient par elle au nombre des fidèles, c'est-à-dire de ceux qui croient en la révélation divine par notre Seigneur Jésus-Christ. Elle ne concernait que les enfants mâles ou les hommes adultes. Les personnes de sexe féminin entraient dans le peuple fidèle en pratiquant les actes ordinaires de la religion juive de l'époque. Mais la circoncision n'était pas seulement le signe de l'alliance entre Dieu et son peuple et le signe de la foi de ce peuple dans le Messie à venir. La circoncision était aussi le signe de la grâce. Elle était en effet un sacrement de l'ancienne loi, un sacrement qui donnait la grâce sanctifiante et qui enlevait le péché originel. Cependant, la circoncision ne produisait pas ses effets comme les sacrements de l'Église aujourd'hui. Les sacrements de l'Église sont efficaces par eux-mêmes. Ils sont comme des canaux qui nous communiquent la grâce mérité par notre Seigneur pendant sa passion et la grâce qui nous vient de notre Seigneur. Avant notre Seigneur, comme la passion n'avait pas encore eu lieu, La grâce ne pouvait pas parvenir aux hommes de cette manière. Elle était donnée par Dieu aux hommes dans la mesure de leur foi dans la passion future de son Fils. Dans l'Ancien Testament, recevoir un sacrement, c'était faire acte de foi, au moins implicite, dans la passion à venir du Messie. Et Dieu récompensait cette foi en donnant la grâce aux hommes qui s'approchaient de ces sacrements. Et pour l'enfant avant l'âge de raison, eh bien, c'était la foi de ses parents qui lui méritait cette grâce. L'évangile d'aujourd'hui, selon saint Luc, nous dit que notre Seigneur fut circoncis au 8e jour après sa naissance, comme tous les enfants des Juifs de l'époque. C'est saint Joseph, le chef de famille, qui se chargea de l'opération, selon l'usage qui était le plus fréquent, et qui d'autre d'ailleurs aurait été plus digne d'accomplir cette intervention délicate et douloureuse sur le Fils de Dieu lui-même. Quelle dut être l'émotion de la Sainte Vierge et de saint Joseph en voyant couler pour la première fois le sang de notre salut. Notre Seigneur n'avait donc pas attendu longtemps pour commencer à verser son sang, 8 jours. En nous donnant aujourd'hui les prémices de son sang, écrit un auteur, notre Seigneur s'engage à le répandre un jour tout entier pour nous sauver. Et ce sang sera le sang d'une nouvelle alliance, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Alors, comme il convenait, qu'en ce jour, notre Seigneur reçut de saint Joseph son nom de Jésus, qui veut dire sauveur. Bien sûr, notre Seigneur n'avait pas besoin en soi de recevoir ce sacrement. D'abord, comme il n'avait pas été conçu par génération humaine, mais par l'opération du Saint-Esprit, notre Seigneur n'avait pas contracté le péché originel. Et puis, notre Seigneur n'avait pas besoin de recevoir la grâce. Son âme humaine étant unie à la seconde personne de la Sainte Trinité, elle en recevait une plénitude de grâce sanctifiante qui était déjà au sommet dès le premier instant. Il n'avait même pas besoin de grandir dans la grâce. Saint Thomas d'Aquin donne plusieurs raisons pour lesquelles notre Seigneur voulut néanmoins être circoncis. Nous en retiendrons 3. D'abord, notre Seigneur voulut montrer par là la réalité de sa chair humaine contre ceux qui un jour voudraient la nier. Verbum caro factum est. Le Verbe s'est fait chair. Il est vrai Dieu et vrai homme. C'est ce que nous montre la circoncision. Ensuite, en se faisant circoncire, notre Seigneur certifiait qu'il était de la race d'Abraham, s'engageant par là à observer toutes les lois données par Dieu au peuple élu et se donnant pour nous en modèle d'obéissance à la loi de Dieu. Enfin, en se faisant circoncire, notre Seigneur s'imposait le lourd fardeau de la loi ancienne avec sa multitude de prescriptions pour que nous n'ayons plus à la porter. Il n'en restera que le décalogue, qui ne peut être aboli parce qu'il est le résumé de la loi naturelle. Mais toute la liturgie, tous les rites de l'Ancien Testament, par exemple, tout cela disparaîtra avec notre Seigneur. Toute cette liturgie n'était qu'une liturgie figurative, une liturgie qui annonçait à l'avance le culte parfait que notre Seigneur offrirait un jour à son Père par son sacrifice sur la croix. Et dès lors que notre Seigneur se sera offert sur le calvaire pour la réparation de nos péchés, eh bien toute cette liturgie de l'Ancien Testament n'aura plus lieu d'être et ne servirait plus à rien, même si elle était continuée. Les cérémonies de la loi ancienne signifiaient le Christ comme devant souffrir, dit saint Thomas d'Aquin, tandis que nos sacrements montrent le Christ comme ayant souffert. La circoncision a donc été maintenant abolie. Notre Seigneur l'a remplacée par le baptême. Le baptême nous unit à la mort et à la résurrection du Christ. Lorsque l'eau a coulé sur notre front, parce qu'elle coule sur la front d'un bébé, eh bien, il se passe la même chose pour l'âme, c'est assez extraordinaire, il se passe la même chose pour l'âme que si nous avions subi toute la passion. La même chose que si nous avions souffert et nous étions morts avec notre Seigneur sur la croix pour ressusciter avec lui le troisième jour. Il se passe la même chose, mais dans notre âme. La grâce du baptême, donc, si nous résistons pas, eh bien, c'est une grâce de mort au péché et de naissance à une vie nouvelle, la vie de la grâce avec notre Seigneur Jésus-Christ. Et avec la grâce sanctifiante, le baptême imprime aussi dans notre âme un caractère, ce qu'on appelle un caractère, qui est une puissance spirituelle qui nous rend capables de prendre part justement à la liturgie du Nouveau Testament inaugurée par notre Seigneur, à ce culte parfait qu'il a inauguré sur la croix et auquel nous participons en assistant à la messe et en recevant tous les sacrements qui nous viennent tous de la croix de notre Seigneur. Mais le baptême, c'est la porte des sacrements. C'est celui qui ouvre pour nous ces sources de la vie qui sont inaccessibles à quelqu'un qui ne serait pas baptisé, quelqu'un qui refuserait de croire au Sauveur. Alors le baptême réalise dans notre âme ce que l'ancienne circoncision était incapable de réaliser par elle-même. En retranchant un morceau de chair, l'ancienne circoncision signifiait que nous devons retrancher dans notre vie tout ce qui nous empêche d'aimer Dieu de tout notre cœur. Comme le dit le Saint-Esprit dans le livre du Deutéronome, « Dieu circoncira votre cœur et le cœur de vos enfants, afin que vous aimiez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme, afin que vous viviez. » Et justement, c'est cette circoncision du cœur, cette circoncision spirituelle qui nous permet d'aimer Dieu de tout notre cœur, c'est cela que réalise le baptême. Alors, au seuil de cette nouvelle année, eh bien, demandons à notre Seigneur et notre Dame de nous aider à retrancher courageusement dans notre vie tout ce qui nous empêche de nous donner totalement à leur volonté. Le baptême nous avait libérés, mais avec les années, peut-être que nous nous sommes remis dans de nouveaux esclavages. Telle mauvaise habitude que nous avons contractée et que nous combattons trop mollement. Quand ce ne sont pas les esclavages nouveaux qui sont arrivés ces dernières années du monde moderne, tout cet audiovisuel, cet Internet qui maintenant absorbe même les catholiques. Et s'il nous paraît bien difficile d'opérer ces retranchements, eh bien, appuyons-nous sur la puissance de la très sainte Vierge Marie. Au rite romain, l'oraison de la messe de la circoncision est différente du rite dominicain. En cette fête qui est une fête de notre Seigneur, l'oraison du missel romain est étonnamment centrée sur la Vierge Marie, comme si c'était une fête de Notre-Dame. Je vous lis. Dieu qui par la féconde virginité de la bienheureuse Vierge Marie avait octroyé aux hommes les biens du salut éternel, faites-nous ressentir la puissance d'intercession de celle par qui nous avons pu recevoir l'auteur de la vie, notre Seigneur Jésus-Christ. 8 jours après Noël, eh bien, la liturgie fait appel à l'intercession de Notre-Dame. C'est par elle que notre Seigneur est venu sur terre, et c'est par elle que l'Église nous appelle à réaliser la circoncision spirituelle, à vivre les promesses de notre baptême. Et c'est la Vierge Marie qui nous permettra de garder cette circoncision spirituelle, cette vie intérieure, dans les temps où nous sommes, où tout se conjugue pour nous la faire perdre, non seulement nous faire perdre l'état de grâce, mais même aussi la foi. Alors qu'une nouvelle année civile s'ouvre aujourd'hui, n'oublions pas, chers fidèles, que nous sommes en guerre. C'est une année de guerre qui recommence, qui continue. Les paroles de Notre-Dame à sœur Lucie de Fatima doivent sans cesse être présentes à notre esprit. Le démon, et c'est ce qui se passe en ce moment, le démon est en train de livrer une bataille décisive avec la Vierge. Et une bataille décisive est une bataille finale. Dieu donne les derniers remèdes au monde, le Saint-Rosaire et la dévotion au cœur immaculé de Marie. et ceci étant les deux derniers remèdes, cela signifie qu'il n'y en aura pas d'autres. Et Notre-Dame donnera encore d'autres précisions à sœur Lucie. C'est une petite règle de vie à la portée de tout le monde, toute simple, pour traverser les temps actuels sans perdre notre âme dans la guerre qui se livre aujourd'hui. Écoutons encore sœur Lucie. Le plus important est l'accomplissement du devoir quotidien et l'offrande au cœur immaculé de Marie des sacrifices nécessaires à l'accomplissement de notre devoir, offrande de cela, pour les pauvres pécheurs. Les demandes secondaires sont le chapelet et le scapulaire. Le chapelet nous aide à sanctifier notre devoir quotidien. Quant au scapulaire, il signifie notre appartenance à Notre-Dame, il est notre bouclier protecteur. Bien sûr, on peut rajouter notre récollection mariale mensuelle, la dévotion réparatrice des premiers samedis du mois, la confession qui peut avoir lieu 8 jours avant ou après, ou même plus tard, la communion qui peut être faite le dimanche avec la permission d'un prêtre en cas d'empêchement, la récitation du chapelet et la méditation d'un quart d'heure sur un ou plusieurs mystères du rosaire, tout cela offert en réparation au cœur immaculé de Marie. Eh bien, pratiquons cela et nous passerons une très bonne année. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.